Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce mardi 11 juin, les titres. Des postes d'agents supprimés au guichet des gares de Pertuis, Digne-les-Bains, Saint-Auban, Laragne-Montéglin et Vennes. Les députés des Alpes du Sud montent au créneau et interpellent la SNCF et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mobilisation des parents d'élèves de l'école Paul Lapy à Château-Arnoux-Saint-Auban. Depuis l'automne, les absences de l'institutrice de CM2 ne sont pas palliées convenablement selon eux. Eux aussi se mobilisent, les sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence, des pompiers qui se disent écoutés mais pas entendus, alors qu'ils réclament l'embauche de 30 pompiers professionnels supplémentaires. Ils ont interrompu ce matin une réunion du conseil d'administration du SDIS. Plus de 2 millions d'euros investis sur le château de Tallard depuis le début de l'année 2017. Pour la réhabilitation de cette bâtisse, la commune a reçu les rubans du patrimoine, une récompense attribuée aux communes ou intercommunalités qui réalisent des opérations de restauration ou de mise en valeur du patrimoine bâti. Mais pour commencer, une femme devant la justice pour violence volontaire sur son bébé d'un an. Les faits ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Briançon. Après un appel des pompiers, les policiers du commissariat se rendent au domicile d'une famille. Selon le père, sa conjointe enceinte de 8 mois aurait perdu patience alors qu'elle donnait le biberon à l'enfant âgé d'un an et l'aurait projeté au sol. Il explique aussi aux policiers avoir dû intervenir pour empêcher la mère d'ouvrir la fenêtre. La mise en cause qui aurait alors bousculé son mari. L'homme a été blessé au pied. Il déclare aussi que sa femme a déjà été violente envers l'enfant. Pris en charge par les pompiers, le père et le bébé ont été transportés sur l'hôpital de Briançon. La femme interpellée vers 1h du matin et placée en garde à vue n'a pas reconnu les faits. Elle nie toute violence intentionnelle sur le bébé et sur son mari. L'examen psychiatrique fait état d'une bipolarité qui cependant ne nécessite pas d'hospitalisation d'office. La femme de 22 ans qui sera convoquée devant la justice en septembre prochain pour violence volontaire sur mineur sans ITT et violence volontaire sur conjoint sans ITT. Les députés des Alpes du Sud interpellent la SNCF et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils s'opposent à la suppression dès cet automne des postes d'agents au guichet des gares de Pertuis, Digne-les-Bains, Saint-Auban, Laragne-Montéglin et Vennes. Puis dès 2020, sur l'Argentière, l'ABC, Mont-Dauphin et Embrun. Quant à Cheminot FO, il parle d'une restructuration jamais vue sur la ligne des Alpes. Les quatre députés de La République En Marche rappellent ainsi à la SNCF les débats qui se tiennent actuellement au sein de l'Assemblée nationale d'assurer un service d'accueil aux usagers du rail. Les députés interpellent donc SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Leur regard se tourne aussi vers l'hémicycle marseillais. Car rappelons qu'en janvier dernier, Renaud Muselier, le président, et Guillaume Pépi, PDG de la Société des Chemins de Fer, se serraient la main, actant alors un protocole d'accord. Protocole qui promettait jusqu'en 2023 de ne fermer aucune gare. Des élèves de CM2 en école buissonnière forcée à Château-Arnoux-Saint-Auban, les parents d'élèves étaient mobilisés ce matin dès 8h30 au sein de l'établissement Paul Lapy. Depuis l'automne, l'enseignante est éloignée de l'école pour des raisons personnelles douloureuses, précisent les parents. Mais depuis, c'est une dizaine de remplaçants qui se succèdent et parfois trois dans la même semaine. Mais ces mêmes remplacements ne sont eux-mêmes pas remplacés, obligeant les écoliers soit à être reversés dans une autre classe, soit à rentrer chez eux. Les conséquences sont lourdes pour ce passage scolaire charnière, selon Rémi Carayol, parent délégué.
Alors les conséquences, c'est d'abord évidemment pour les enfants. Ils sont une classe qui est quand même charnière, c'est le CM2, ça veut dire que l'année prochaine, ils sont au collège. C'est un tout autre rythme qu'ils vont devoir adopter. Et en fait, durant toute cette année, non seulement ils n'ont pas forcément pu travailler correctement le programme, pour certains des enfants, il va leur manquer des bases importantes lorsqu'ils entreront au collège. Et puis deuxième chose, ils ont perdu l'habitude de travailler en fait. En discutant avec de nombreux parents, on se rend compte que pour les enfants de CM2, travailler est devenu non pas la norme, mais devenu exceptionnel et certains rechignent. Parce que en fait, il arrivait des jours où il faisait des devoirs la veille, et puis le matin, quand ils allaient à l'école, il n'y avait pas de remplaçant, donc il n'y avait pas école. Et petit à petit, dans leur construction mentale, ils se sont dit que finalement, ça servait pas à grand-chose de travailler.
Les parents d'élèves se sont déjà tournés à multiples reprises vers l'inspection académique qui, malgré sa volonté, n'a pu trouver une solution pérenne en raison d'un manque de remplaçants.
On l'a saisi à plusieurs reprises, on a même rencontré l'inspectrice avant les dernières vacances, les vacances de Pâques. où elle était bien consciente de la situation, elle nous a expliqué ses problématiques à elle, c'est-à-dire un problème d'effectif, du nombre d'enseignants remplaçants, et où elle nous avait aussi assuré que tout serait fait pour qu'il n'y ait plus de jours où l'enseignant n'est pas remplacé, et il se trouve qu'on a eu, depuis le retour des vacances, de nombreux jours. Il y a eu 5 jours d'école où ils n'ont pas eu classe, en fait. À partir d'un certain temps où on s'est rendu compte que l'enseignant titulaire n'était peut-être pas en mesure d'assurer sa mission, l'inspection aurait dû nommer un enseignant remplaçant et cet enseignant n'aurait plus été remplaçant, c'est-à-dire qu'il aurait été nommé juste à la fin de l'année dans cette école et pour cette classe. Ça n'a pas été fait, c'est-à-dire que elle a nommé des remplaçants finalement au jour le jour du fait d'un certain nombre d'absences et des circonstances qui effectivement n'ont pas aidé l'administration. On s'est retrouvé à de nombreux jours sans remplaçant.
Des propos recueillis par Cyrielle Michard. Désormais, ce sont vers les élus de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban et vers les parlementaires des Alpes-de-Haute-Provence que les parents dirigent leur mécontentement, leur demandant de défendre une augmentation du nombre d'enseignants remplaçants dans la circonscription Sisteron-Sud dès l'année prochaine et une meilleure communication face à ce genre de difficultés avec la présence d'un représentant de l'éducation nationale dans les conseils d'école. Eux aussi sont toujours mobilisés. Ce matin, une trentaine de pompiers et une dizaine de personnels du staff technique ont interrompu une réunion du conseil d'administration du SDIS à Digne-les-Bains. Réunion qui rassemblait notamment des élus. Ils ont, dans le calme, lu une motion signée par l'Union départementale des sapeurs-pompiers 04, le syndicat national de l'encadrement des services d'incendie et de secours et le syndicat autonome 04. Dans cette motion, ils rappellent qu'ils ont demandé l'embauche de 30 sapeurs-pompiers professionnels, dont 2 cette année. Des pompiers qui se disent écoutés mais pas entendus. Sur sollicitation, nombre croissant d'interventions, mais aussi turnover. Pour les pompiers mobilisés, le fonctionnement actuel n'est, je cite, plus viable. Des pompiers qui se disent déterminés et comptent mener d'autres actions sur le territoire. Et sur le territoire, justement, des Alpes-de-Haute-Provence, on compte 1542 sapeurs-pompiers volontaires. Des conventions de disponibilité ont donc été signées en fin de semaine dernière entre le SDIS 04, la mairie de Digne-les-Bains et la communauté d'agglomération Provence-Alpes. Elles concernent 16 agents, 14 pour la communauté d'agglomération et 2 pour la mairie. Objectif, mieux concilier vie professionnelle et mission de sécurité. Ce partenariat permet notamment aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier d'autorisations d'absence sur le temps de travail pour mener des missions de sapeurs-pompiers. Écoutez le colonel Frédéric Pignot, il est le directeur départemental du SDIS 04.
Il y a deux grands volets, la disponibilité pour la formation. Donc dans les conventions qui ont été signées aujourd'hui entre Digne-les-Bains, la mairie de Digne-les-Bains et Provence-Alpes Agglomération, c'est 5 jours par an qui sont octroyés potentiellement à chaque sapeur-pompier volontaire pour pouvoir se former sur leur temps de travail au bénéfice du service. Et puis il y a la convention opérationnel qui leur permet, en fonction des possibilités offertes par rapport au poste qu'ils détiennent, qu'ils occupent, d'être libérés en cas d'intervention. Et cette convention prend aussi en compte le dimensionnement de la réponse opérationnelle des dispositifs de lutte contre les feux de forêt que nous pouvons être amenés à mettre en place l'été. Donc chaque agent peut être libéré 4 demi-journées pour pouvoir être intégré dans les dispositifs de lutte contre les feux de forêt. Je crois que toutes les collectivités ou toutes les entreprises qui signent une convention avec le SDIS sont déjà persuadées du bien fondé de l'engagement citoyen. Parce qu'au-delà de la convention, ce sont des hommes et des femmes du corps départemental, des citoyens des Alpes-de-Provence qui s'engagent à donner de leur temps, à donner malheureusement parfois, et c'est arrivé dans ce département, leur vie pour sauver leurs concitoyens. Donc c'est un véritable engagement citoyen.
Frédéric Pignot au micro de Michel Bonnefoy, le SDIS 04, qui se donne pour objectif d'atteindre 400 conventions signées d'ici 2020. Des plans de tabac pour surveiller la pollution par l'ozone à Briançon. C'est l'étude lancée par l'association Arnica Montana. Certaines variétés de tabac sont en effet très sensibles à l'ozone et se tâchent quand un certain taux est dépassé. Cette expérience avait déjà eu lieu de 1998 à 2005 en collaboration avec le laboratoire atmosphérique de l'INRA. Les plants de tabac avaient été plantés à Briançon, mais aussi à Montgenèvre, jusqu'à Guillestre. L'idée, en renouvelant l'expérience, est de comparer les taux par rapport aux années 2000. Claude Rémy est le président de l'association Arnica Montana.
Toutes les semaines, nous ferons un suivi pour évaluer la surface des taches dues à l'ozone. Alors l'ozone, c'est O3, hein, un polluant qui se forme à partir de d'autres polluants, par exemple les oxydes d'azote, gaz d'échappement des véhicules, par des industries. Et sous l'effet de la lumière et d'une température assez élevée, ces gaz se transforment en ozone, qui peut avoir des impacts sur la végétation, mais également sur l'homme, hein. Cette pollution par l'ozone, bon, elle existait. Hein. Elle a deux origines. D'une part, l'origine de la circulation, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Mais on a également une pollution par l'ozone qui vient d'Italie. Lorsque l'on a la lombarde, c'est-à-dire le vent qui vient d'Italie, on a une augmentation de la pollution par l'ozone. On l'avait très bien noté en mettant des tabacs sur Mont-Genève, côté Italie, côté Briançon. Le plan qui était côté Italie se tâchait beaucoup plus. Même dans les Hautes-Alpes, le seuil de sensibilité de certains végétaux est dépassé.
Interview réalisée par Luna Sanchez. C'est un ouvrage de 40 mètres de long qui va bientôt s'installer sur le Buëch à l'entrée d'Aspre, une opération estimée à 2,2 millions d'euros qui doit sécuriser mais aussi fluidifier le trafic à l'entrée de la commune. Françoise Pinet, maire d'Aspre-sur-Buëch.
L'importance du pont, c'est de faciliter un petit peu la circulation parce que l'accès au pont était très difficile. Vous avez vu, donc il y a un virage juste avant le pont. Donc c'était quand même assez étroit et le passage était difficile, notamment pour les poids lourds et voitures. Voilà. Donc tout l'intérêt, c'est aussi de faciliter ce raccordement, puisqu'après, on a le raccordement sur le RD 1075 et sur la direction de Valence. Donc Aspre-sur-Buëch est un grand carrefour, hein. Donc il fallait à tout prix sécuriser le pont pour faire ensuite le carrefour un peu plus sécurisé. Voilà.
Ce chantier est le deuxième plus important chantier du département. En plus de la construction d'un nouveau pont, la traversée du village est aussi aménagée. En effet, 600 mètres de voirie seront également refaits afin de changer l'axe de la route pour entrer plus facilement dans le bourg-centre. Marcel Cana, vice-président du département en charge des infrastructures routières.
C'est un des plus gros chantiers du département après le pas de l'ours. L'ouvrage et les raccordements se montent à plus de 2 millions d'euros. Je tiens à remercier l'État tout particulièrement qui a pris ce dossier à bras le corps, puisqu'au départ, nous sommes sur la 994A et le CPER est sur la 1075. Donc il fallait que justifier que ce pont était sur l'axe Grenoble-Sisteron. C'est ce qu'a fait l'État et de ce fait, le département a pu avoir 80% de financement sur cet ouvrage-là. Sinon, on ne pouvait pas le faire. Dès que cet ouvrage va être réalisé, ça va fluidifier un peu la circulation sur cet axe-là. On fait complètement, on reconstruit un pont, c'est-à-dire qu'on va démolir un ancien pont qui était dans une chicane et on fait un nouvel ouvrage. Et la fin du chantier sera réalisée avant la fin de l'année 2019, c'est-à-dire l'ouvrage et les deux raccordements de part et d'autre.
Des travaux, vous l'avez compris, rendus possibles grâce à leur inscription dans le contrat de plan État-Région au titre des travaux d'aménagement de la RD 1075 entre Sisteron et Grenoble. Agnès Chavanon est la secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Alpes.
Il y a un grand plan de modernisation donc des axes RD 1075 et RN 85 pour les liaisons entre Grenoble, Gap et Sisteron. Donc le plan, effectivement, sont pris en compte des financements sur plusieurs CPER et le contrat de plan État-Région de cette année prévoyait entre 2015 et 2020 10 millions sur la modernisation de ces axes. Effectivement, l'axe pris en compte, c'est la RD 1075. Sauf que la RD 994A est l'axe qui permet de relier la RD 1075 à Gap. Donc c'est pour ça que l'État est intervenu pour reconnaître l'utilité de ce pont et de ses travaux nécessaires pour la fluidification des accès routiers entre la RD 1075 et Grenoble et donc inscrire ces travaux sur ces RD 994A au même titre que les chantiers sur la RD 1075. Donc sur les CEPR actuels, et donc pour permettre un financement en soutien au département.
Et notez que l'actuel pont sera démonté au cours de l'année 2020. La mise en service du tout doit avoir lieu à l'automne prochain. Je vous en parlais dans les titres. La ville de Tallard récompensée, elle a reçu les rubans du patrimoine pour la réhabilitation de son château. Cette récompense est attribuée aux communes ou intercommunalités qui réalisent des opérations de restauration ou de mise en valeur du patrimoine bâti. Depuis le début de l'année 2017, des travaux sont menés sur le château. Plus de 2 millions d'euros sont investis sur cette bâtisse qui a vu le jour au XIVe siècle. Écoutez Jean-Michel Arnaud, le maire de la commune.
C'est d'abord la reconnaissance de la réalité historique de notre commune, puisque la commune de Tallard est à la fois une commune disposant de deux monuments historiques, l'église Saint-Grégoire et le château, un parc classé, et également à l'intérieur du château, une chapelle de type gothique flamboyant qui a été également classée monument historique. Tallard est clairement une des communes ayant un patrimoine historique relativement bien conservé, parmi les plus importants des Alpes du Sud. Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment une reconnaissance tout au fil, finalement, des décennies qui viennent de s'écouler, du travail qui a été fait par la société d'études, par la commune de Tallard dès 1964, date de l'acquisition du château, et puis la volonté de mon équipe municipale pour transformer ces monuments historiques en une capacité d'attractivité économique et touristique de la commune, puisque à terme de cette rénovation, nous aurons une salle de congrès, une salle de spectacle, et positionner vraiment ce château comme étant pleinement constitutif de l'identité passée, contemporaine et du futur de Tallard.
Et notez que cet été, le château ouvrira ses portes pour accueillir différentes manifestations culturelles. Les travaux devraient, eux, se terminer en 2020.
L'actu des Alpes du Sud continue sur les applications pour smartphones.